Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour, Université de Sherbrooke. On est mercredi le 30 octobre. Demain, c'est l'Halloween. Et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, Alexandre Bélanger, votre animateur habituel pour votre émission d'une heure de discussion de jeux de rôle, jeux de société, culture geek, etc., etc. Cette semaine, Hugo et Nathan sont absents. On a des possibilités d'avoir Hugo, mais il semblerait qu'il y a un petit problème logistique. Nathan est absent pour raisons professionnelles, mais j'ai deux personnes, qu'on n'a pas vu souvent cette année, mais qui est là. Salut Alexandre Racine, comment ça va?
Ça va super, puis toi Al?
Ça va bien, ça va bien.
Et oui, un revenant, encore.
Une personne que je suis très content de vous présenter, moi je la surnomme la terreur du mercredi soir, c'est la nouvelle présidente du CJRSS, c'est Daphné. Bonjour Daphné, comment ça va?
Ça va bien.
Est-ce que tu es nerveuse d'être ici ce midi?
Surtout excitée, là. C'est la première fois que je fais une émission de radio, là, que je viens à Ludo Radio.
Hey, écoute, on est super content de t'avoir. Tu vas être un petit peu une stand-in pour Hugo Pinatan. Fait que si tu as envie d'intervenir dans nos discussions pendant l'émission, tu te gênes pas. Puis on va espérer que c'est la première de plusieurs présences que tu vas faire avec nous. Alors moi, je vais commencer immédiatement avec des petites nouvelles. Donc, en manchette, cette semaine, le temps arrive pour la présentation de l'extension de Earth. Hein? Alex va être content. Maxime va présenter son extension de son jeu à Ludicon le 8, 9 et 10 novembre au Palais des Congrès à Montréal. Malheureusement, on ne pourra pas être là, nous, parce que c'est la fin de semaine des portes ouvertes à l'Université de Sherbrooke. Et qu'est-ce qui se passe aux portes ouvertes?
On joue.
On joue parce que oui, à toutes les portes ouvertes, le CJRSS a littéralement un party de jeu qui se passe au E10001. C'est à partir de 9h jusqu'à ce qu'on soit tanné. Tout le monde se tente vers 11h minuit. Là. C'est le samedi, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On va mettre un post disponible sur Facebook bientôt pour les plages plus organisées, mais il y a toujours du jeu spontané. Puis ben souvent il y a du quesada qu'on va chercher en gang, pas trop cher parce qu'on a un petit rabais institutionnel.
Yes, merci à notre partenaire pour ça.
Et oui. Donc cette semaine, de quoi on va parler, Alex Racine?
Ben cette semaine, je vais vous parler d'un jeu dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes dans la communauté du jeu de rôle, peut-être en mime, peut-être en mal. Plus peu probablement bien, mais moi je l'aime beaucoup et toi aussi, Al.
Ah oui.
Il s'agit de Shadowrun, spécifiquement la 5e édition.
Oui, on va vous parler de la 5e édition, qui n'est pas l'édition en cours, mais qui est, je pense,
la grosse, la plus jouée en ce moment probablement,
encore,
et
oui.
Encore probablement une des plus appréciées des joueurs.
Oui, celle-là puis la deuxième, c'était effectivement des éditions assez importantes. On va vous présenter un petit jeu de société qui s'appelle Munchkin. Munchkin, dans le fond, c'est comment jouer à Donjons et Dragons sans vraiment jouer à Donjons et Dragons et pas trop comprendre comment on joue à Donjons et Dragons.
Et ça fait partie du jeu, ne pas comprendre.
Mais pour commencer, ben, on va vous présenter notre nouvelle présidente, Daphné. Alors, Daphné, parle-nous un peu de toi. T'es quoi à l'université?
Je suis étudiante au baccalauréat en génie civil. C'est ma première année en génie civil. Avant ça, j'ai fait un an au bac en informatique quantique, mais j'ai lâché après un an pour changer de programme.
Il y avait des raisons pourquoi tu t'es réorientée? C'était juste...
Je me voyais plus tant travailler là-dedans. Là. J'aimais ça quand même, les cours d'informatique, la physique quantique, mais je me voyais pas travailler là-dedans. C'était trop abstrait. Je voulais faire de quoi de plus concret.
Le génie civil est beaucoup plus appliqué.
Oui, effectivement.
Ouais,
puis tu vas faire de l'informatique en masse, fais-toi-en pas.
Ouais.
J'aimerais ça que tu nous dises, qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'impliquer dans le CJRSS?
J'aimais beaucoup le CJRSS. Là. Ceux qui viennent les mercredis soirs me connaissent sûrement. Là. Je viens très souvent.
La terreur du mercredi, c'est pas une blague. Là. Oh, Daphné, elle va commencer un jeu. C'est la première fois qu'elle va jouer. Elle va jouer contre du monde qui sont habitués et qui sont bons à ce jeu-là. Puis si elle les bat pas, elle va leur donner toute une run pour leur argent. Vraiment, là. Moi, tu m'impressionnes là, quand tu...
Ça paraît que tu as de l'expérience. Tu comprends vite puis tu ajustes ta stratégie.
Je pense qu'il y a un bon cerveau entre ces deux oreilles-là aussi.
Mm. Ouais, ça fait quand même un bout que je vois des jeux de société. Là. J'aime beaucoup ça.
Moi, j'aurais une pré-follow-up question. Comment tu nous as trouvés, en fait? Comment tu as trouvé qu'on existait?
Lors de la journée CAP sur l'UDS, il y avait plusieurs kiosques. J'ai vu qu'il y avait un kiosque sur les jeux de société. Là. Fait que... Vu que j'aime beaucoup les jeux de société, je savais que j'allais venir...
Dire qu'on a failli pas participer à ça.
Ben, j'aurais trouvé le comité quand même. Là. J'aurais trouvé d'autres façons aussi. Là.
Mais c'est le fun parce que nous autres, ça nous fait valider, ben, maintenant toi aussi, ça nous fait valider dans le fond où est-ce que nos efforts de recrutement puis de publicité vont, si c'est efficace. Puis ben, je pense que Cap2S, je voyais pas le potentiel au début.
Ben, c'est la première fois qu'on voit les comités, donc c'est la première fois qu'on en entend parler aussi.
On en entend parler après aux portes ouvertes. La majorité du monde qui s'arrête nous disent qu'ils sont allés au Cap2S ou quelqu'un du Cap2S en a parlé.
Hey, c'est vraiment le fun. Puis ben, on parlait de jeux de société. Tes jeux préférés? Tes styles préférés?
J'aime beaucoup tout ce qui est engine builder, quand on construit de quoi, puis qu'à la fin, ça finit par tout débouler. Là. J'aime ça, genre, construire, puis qu'à la fin, ça donne de quoi. Là. Ça, j'aime beaucoup ça. Là. Tout ce qui est deck building aussi.
Y a-tu des styles que t'aimes moins?
J'aime moins les jeux... Je sais pas, plus de chance, mais des fois, ça peut être le fun. Mais
les dice rollers, ces affaires-là. Là, qui
j'aime
sont...
ça quand il y a de la stratégie.
OK. Wow.
Mais quand je suis un peu fatigué, j'aime ça quand même quand il y a de la chance aussi. Là.
C'est souvent aussi des jeux plus courts qui peuvent être bien entre deux.
Ouais.
OK. Puis, ben nouvelle présidente du CGRSS, c'était un petit peu inattendu, parce qu'on pensait qu'on allait garder notre président un an de plus, mais finalement... Il est parti, tu t'es présenté, tout est bien rose avec des arcs-en-ciel et des petites licornes, mais toi, qu'est-ce que tu veux apporter au club? Là? Qu'est-ce que tu veux que ta présidente veuille dire? À part d'être la première femme présidente.
Ben, je sais pas, je veux continuer à ce que le comité roule, là, qu'il y a encore des soirées de jeux de société, des plages pour les jeux de rôle aussi. Je veux continuer ce que ça aille bien. Là.
Super, parce que oui, bon, on est super contents. Notre club va super bien. T'es chanceuse, t'es rite d'un club en pleine santé. Santé. Ouais, c'est ça. Dans le fond, t'as juste à t'assurer qu'il reste en santé, puis ça va être mission accomplie. Ça serait le. Écoute, Alex, veux-tu faire une mini présentation de Shadowrun, puis on va à la pause ou on va à la pause tout de suite?
Ah, je peux faire une petite intro. Donc, l'année est 2075. C'est notre monde, mais il s'est passé quelque chose de spécial en 2011. La magie est arrivée dans le monde. Cette magie-là est un cycle régulier et est revenue. Ce qui explique qu'il y a maintenant des elfes parmi nous qui sont nés. Et des gens qui sont devenus des monstres horribles qu'on appelle ben, juste des orques ou des trolls, dépendamment de la taille qu'ils ont. Et ces gens-là vivent maintenant dans une société dystopique où les corporations gèrent le monde et où si tu ne travailles pas pour quelqu'un, tu n'existes pas et n'es même pas un être humain.
Effectivement. On appelle ça les sinless, les gens qui n'ont pas de système identification number.
Donc, dans ce monde dystopique, vous représentez une gang de possiblement tout croche, possiblement juste rejet de société, ou thrill seeker, qui se mettent à faire ce qu'on appelle des shadowruns, c'est-à-dire des missions dans l'ombre, dans le but d'obtenir quelque chose, sortir quelqu'un, assassiner quelqu'un, pour probablement une des corporations, un gang, la mafia. Qui sait? N'importe qui paye, l'important, c'est de survivre jusqu'à la fin du mois.
Alors, ben, si vous ne l'avez pas compris, c'est du cyberpunk. Donc, avec une touche de magie qu'on ne retrouvera pas nécessairement dans un style cyberpunk. C'est clairement inspiré du travail de Gibson, Neuromancer, entre autres. On va retrouver un grand réseau connecté qui n'est pas l'Internet, mais qu'on appelle la Matrice, là, où les gens peuvent physiquement se mettre dedans. C'est très, ce feeling très années 80, parce que ça, ben, ça a été construit dans les années 80, dans le moment où on pensait que le Japon allait acheter le restant de la planète. Puis ben, on va continuer de vous en parler côté mécanique et tout ça, juste au retour de la pause. On est de retour en ondes dans Ludo Radio. Juste avant de partir à la pause, on a commencé à vous parler de l'univers de Shadowrun. On va vous présenter aujourd'hui, dans le fond, la cinquième édition de Shadowrun. On est, full disclosure, on est rendu à la sixième édition de Shadowrun.
Le système est encore jeune. Il y a eu des modifications que certaines personnes aiment, beaucoup aiment moins. Puis le jeu se passe en 2080 au lieu de 2075.
Parce qu'il y a toujours une progression là, dans
Oui, parce
dans
que c'est la même timeline qui continue d'avancer.
Parce que dans le fond, le Shadowrun original commence en 2050. Puis ben un an dans notre vie, c'est à peu près un an de contenu dans Shadowrun.
Ce qui veut dire que les éditions sortent à peu près aux 5 ans en général.
Alors, une chose qu'il faut parler, c'est qu'il y a beaucoup de fiction qui a été écrite à propos de Shadowrun.
Oui. Donc, les livres sont énormes, les livres de règles, et comprennent toujours un peu d'articles sur des personnages fictifs qui ont été lancés dans ces livres-là, mais qui ont beaucoup d'histoires par eux-mêmes dans des romans et autres annexes intéressantes.
Et ce délicieux chocolat-là enrobe un crunchy, ma foi, qu'il y en a qui pensent que c'est littéralement des morceaux de verre.
Ah oui, ça vous prend une pas pire dentition pour passer à travers. Pour vous donner un indice, le livre de base, juste le livre de base, qui est généralement considéré comme insuffisant pour jouer à peu près juste Shadowrun de base, va contenir plus de 500 pages.
En effet. Et c'est un système lourd et complexe.
Certainement. Au début de la chronique, quand j'ai parlé du système, j'ai dit que vous n'avez peut-être entendu parler en mal, c'est que c'est un peu un mime dans la communauté que si vous trouvez que D&D c'est compliqué, D&D par rapport à Shadowrun, c'est comme comparer Uno à D&D.
Oui. C'est une bonne. C'est une très bonne.
Donc, attachez votre truc avec la broche. Les mécaniques sont nombreuses et lourdes. L'annexe ne vous aidera pas beaucoup puisque chaque chose est à peu près répartie en 5 pages différentes qui sont un peu partout dans le livre.
Ceci étant dit,
une
fois que tout ça est passé, que le système est digéré, c'est un système, mon Dieu, qui est d'une élégance extraordinaire. Et ça semble lourd, mais ça revient toujours pas mal à. Trois styles de dice check.
Oui. Donc, généralement, vous avez essayé d'avoir des succès. D'abord, le système se base avec des D6, pas des dés à 20 faces comme Donjons et Dragons. Donc, des dés à 6 faces, comme pour la plupart de vos jeux de société. Vous avez un certain nombre de dés à 6 faces associés à votre statistique et un certain nombre de dés à 6 faces associés à ce que vous essayez de faire maintenant. Donc, supposons que vous voulez hacker un ordinateur. Vous allez avoir, votre stat d'intelligence et votre skill de hacking. Ça va vous faire, mettons, 5 dés d'intelligence puis 6 dés de hacking. Vous brassez vos 11 dés.
Ça fait un pool de 11 dés.
Et là-dessus, les 5 et les 6 sont considérés comme des succès. Si
des
vous
fois,
avez plus de succès...
On peut tenter quelque chose d'un peu plus compliqué qui va nous enlever des dés au pool aussi.
Certainement. Il peut y avoir des modifications dues à des mécaniques que tu as qui t'aident, des mécaniques que l'autre a qui te nuisent.
Fait que ou Donjons et Dragons te donnerait des avantages ou un moins 2 à ton jet. Ben là, Shadowrun va t'enlever des dés dans ton dice pool. Ce qui peut faire que tu te ramasses avec dice pool négatif aussi.
On considère qu'une dice pool négative est toujours à zéro, par contre.
T'essayes juste pas de faire l'action. C'est comme impossible et inconcevable pour ton personnage d'essayer de faire ça.
Ensuite, ben, le nombre de succès qu'on va avoir est souvent comparé à un threshold, un certain nombre de succès demandés pour réussir l'activité, sauf dans le cas d'un jet opposé.
Ouais, dans un jet opposé, dans le fond... Meilleur exemple de jeu opposé, je tire sur un adversaire avec un fusil.
Eh oui, parce que quand ou dans D&D, tu as tout simplement une stat d'armure à battre, ici, on dodge.
Oui, activement. Donc, on va attaquer le réflexe et
l'intuition.
L'intuition de quelqu'un. Donc, parce que ben, généralement...
La stat de dextérité a été brisée en deux, parce que ben, si vous avez joué à Donjons et Dragons, vous vous rendez compte, la stat de dextérité est partout. Shadowrun aussi a trouvé ça, fait qu'il y a deux stats de dextérité. Une pour la précision, puis une pour la vitesse à laquelle tu réagis.
Exactement. Puis, dans le fond, lance le nombre de succès d'un côté et d'un autre côté. Si l'attaquant bat le nombre de succès du défenseur, ben ça touche. Si le défenseur ne sait pas qu'il se fait attaquer, ben là, lui, il n'a pas de dice pool. Et là, c'est ça. C'est là que ça devient aïe-aïe, parce que chaque succès va ajouter aux dégâts que l'arme va faire.
Oui. Donc, chaque arme a une valeur de dégâts de base, plus un nombre maximum de succès attribuables. parce que t'as beau être aussi précis que tu veux, à un moment donné, l'arme a ses propres limites. Et ça va être pris. Par contre, il y a aussi une stat de réduction de dégâts, parce que c'était pas assez de dodger activement, on réduit les dégâts activement.
Il va avoir de l'armure
et la constitution.
La constitution de la personne qui va, dans le fond, soquer les dégâts.
Donc, on roule ces dés-là. Mettons que tu as 10 d'armure puis 7 de consti, ben, tu roules tes 17 dés, puis chaque succès va enlever un dégât.
Ça me rappelle la scène dans Avengers Infinity War où Iron Man met un plus gros gun qu'il peut pas dans la face de Drax, puis Drax écrit « I can take it ». Mais dans Shadowrun, c'est possible.
Oui,
c'est
mon personnage, inagent. C'est ce qu'il faisait d'ailleurs. Donc, parlant des personnages, il n'y a pas de classe dans Shadowrun.
Non, il y a des archétypes, par exemple.
Oui, parce qu'à chaque fois que vous gagnez de l'XP, qu'on appelle du karma, vous pouvez l'investir dans vos stats directement, dans des skills directement, ou pour apprendre des nouvelles choses.
Essentiellement, vous avez les attributs, qui sont les espèces de la base du personnage. Vous avez les skills, qui sont ce qu'il sait faire, ce qui est bon.
Puis, où est-ce que dans D&D, il y en a peut-être une vingtaine? Là, on parle plutôt d'une soixantaine de skills différents.
Et incluant des spécialisations. Parce qu'on peut se spécialiser en épée, mais on peut prendre la skill pour se battre à l'épée, mais on peut se spécialiser au katana. Puis là, ben là c'est le contraire. On tombe dans le trou de lapin parce qu'on peut aller chercher des styles, des manœuvres d'attaque, des trucs comme ça.
Ah, il y a plein de manières de rajouter des dés.
Et dans le fond, c'est là que ça devient à la fois lourd, mais si vous
et
êtes avec, c'est ça, si vous êtes avec du monde qui aime et qui accepte cette lourdeur-là, ben ça devient extraordinaire là, comme jeu.
Donc, évidemment, pour les archétypes de personnages, vous êtes des criminels. Donc, il va y avoir des archétypes de personnages de type infiltrateur. De leur but, c'est de s'infiltrer quelque part, soit par la subtilité, soit par l'ingénierie sociale.
Oui, parce que l'ingénierie sociale est un gros aspect de ce jeu-là.
Il va y avoir des archétypes de personnages combattants, qu'on appelle des street samouraïs, habituellement. C'est parce que la culture japonaise est importante dans le système.
Effectivement. Deux styles de street samouraï
oui,
qu'on va trouver?
Parce qu'il y en a, ces street samouraïs-là vont être souvent mundane, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de magie, et remplacer des parties de leur corps par du métal ou des composés organiques améliorés, du cybernétique ou bionétique. Eux autres, on va les appeler les street samouraïs classiques. Puis on va avoir des combat mages.
Oui. Avant de tomber dans la magie, par exemple, il y a aussi le style qui va... Ben, on va séparer les styles... boosté par ce qu'on appelle du chrome dans le jeu, des implants métalliques, puis de la bio-ingénierie, c'est plus subtil. Il y a généralement plus de place à des modifications, mais les modifications sont un petit peu moins fortes. Puis on va aussi aller dans le style qui se bat à distance, puis le style qui se bat rapproché.
Oui, le combat rapproché est encore plus complexe que les combats à distance dans Shadowrun, ce qui est impressionnant une fois que tu t'es tiré dessus deux, trois fois. Tu penses pas que ça peut être plus compliqué que ça, mais ça l'est. Et ben, souvent, c'est risqué parce que ben, les gens ont des guns. Fait que si tu te rends pas à eux à temps, ça va mal.
Mais quand t'es rendu, par contre, ouais.
Ça va mal pour eux.
Puis là, finalement, on va tomber dans les Magic Users. Il y en a plein de sortes.
Oui, il y a trois grandes familles, principalement. On a les Magic Users à l'intérieur, les gens qui vont se booster eux-mêmes seulement, qu'on va appeler des adeptes. Ces gens-là, c'est un peu comme des moines de D&D. Ils sont capables de faire des choses avec leur corps qui n'est pas exactement logique, mais ils y arrivent. Ils peuvent, par exemple, puncher les esprits. Ils peuvent... sauter sur des hauteurs impossibles, ils peuvent devenir résistants au feu, ils peuvent... N'importe quel genre d'affaires bizarres, ils peuvent le faire, tant que c'est eux.
Puis on a ceux qui sont capables de manifester de la magie.
Oui, ça c'est les mages. Eux vont apprendre des sorts, ils vont apprendre à manifester de la magie sous forme de charme, d'incantation, ou peut-être même de faire apparaître des esprits, des créatures autres qui obéissent à eux jusqu'à preuve du contraire, et qui viennent d'un métaplan inconnu.
Et il y a le meilleur des deux mondes, mais...
Ou le pire des deux mondes, parce que si tu veux te donner un mal de tête.
C'est ça, si tu veux être pas pire dans tout, mais bon dans rien.
Le Mystical Adept, c'est un adepte qui est capable de maîtriser un peu de la magie. Il va falloir qu'il splitte son expérience, son karma entre les deux, donc ça va faire des gens excessivement demandants en XP, qui pourront jamais développer de skills secondaires ou à peu près, mais qui sont capables de lancer certains sorts et de se booster eux-mêmes en même temps.
Ça fait souvent des one-trick pony, mais des one-trick pony très dangereux.
Dur à battre. Maintenant, sur la scène non-combattante, moins combattante, mettons, on a la face, qui est la personne qui va négocier des contrats, ouvrir des opportunités, trouver des deals sur des armements, etc. C'est habituellement un rôle secondaire qui est attribué à un mage ou un infiltrateur.
Qui est déjà dans le groupe, qui fait déjà partie du groupe.
Et on a la matrice qu'on disait étant l'Internet. Comme tout est connecté à l'Internet, y compris le cybernétique de vos amis à gros bras, avoir un hacker, c'est vraiment pertinent. Ouvrir des caméras, fermer des caméras, ouvrir des portes, empêcher le cyber-monstre devant vous de vous puncher avec son bras de 500 livres.
Mm-hmm.
C'est très bien.
Effacer du footage.
Rajouter du footage.
Les possibilités de Shadowrun sont vraiment extraordinaires.
Par contre, une des plaintes importantes à ce sujet-là, c'est que dans le monde de la matrice, les tours sont beaucoup plus lents parce que t'es dans réalité augmentée, t'es pas dans vraie vie. Fait que les gens dans la matrice peuvent faire une vingtaine de tours d'action avant qu'il se passe quoi que ce soit dans vraie vie. Donc, si vous avez un personnage de matrice, attendez-vous à attendre après son tour ou à faire ça dans des laps de temps autres. Parce que ça peut être rapidement très plate pour les autres.
Qui est la tragédie de ce jeu-là, dans le fond, c'est la synchronisation entre les actions matrices, ce qu'on appelle le Meat World, puis le monde magique. Là, où
oui, parce que les mages peuvent aussi partir dans des quêtes métaplanaires, puis se promener entre les plans, puis encore le Street Sam qui est là à ne pas comprendre ce qui se passe.
Bref, si vous avez joué à Donjons et Dragons, mais c'est un petit peu trop simpliste pour vous, et que vous aimez le cyberpunk, donne une chance à Shadowrun, c'est un jeu très compliqué. Moi, je vous invite à écouter des actual play pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Puis, ben, on a les livres au club. Puis
on les a pas mal toutes.
Ouais, puis on a au moins 3 DM très enthousiastes de vous, au minimum, montrer comment ça joue.
Ouais.
Daphné, je te regarde. Tu nous as écouté Machine Gun et ça. Qu'est-ce que ça te dit?
Je sais pas trop quoi dire, là.
Il me semble que tu n'as pas énormément d'expérience de jeu de rôle de base, toi.
Non, pas vraiment.
Donc, c'est sûr que c'est probablement pas un jeu recommandé pour les gens qui se lancent dans le jeu de rôle, à moins d'être vraiment hardcore, de se dire, moi, s'il n'y a pas de la magie puis du cyberpunk, j'embarquerai jamais. C'est pas mal la meilleure option, mais en général, je dirais, faites 2-3 games dans autre chose avant, juste pour vous donner une idée, parce que apprendre le jeu de rôle puis apprendre toutes ces mécaniques-là en même temps, ça va faire rôtir la tête de pas mal tout le monde.
En effet.
Mais ça vaut la peine.
Ça vaut la peine. Je pense que c'est dans les meilleurs games de roleplay que j'ai eu avec mon ami Alex puis mon autre groupe, Shadowrun, c'est fou.
Oui, puis ça va aussi vous faire des recherches sur Google que vous n'auriez jamais pensé faire et que vous ne devriez vraiment pas faire sur un navigateur public.
Comment faire du C4?
Ou est-ce que cette quantité d'acide-là est suffisante pour dissoudre une vache?
On a eu beaucoup de plaisir. Sur ce, on arrive déjà à la moitié de l'émission. On va faire une petite pause. On va voir si notre ami Hugo s'est fait ramasser par son autobus. Puis on vous revient dans quelques minutes. De retour à Ludo Radio, votre heure de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Hugo nous a dit qu'il va être là dans 2-3 minutes, fait qu'il va littéralement rentrer dans le local en onde, chose qu'on n'aime pas, mais bon, des choses qui arrivent. Et d'ici là, je vais vous présenter, commencer à vous présenter le super jeu de Munchkin. Alors, c'est quoi Munchkin? C'est un jeu de société tout simple, d'à peu près 250 cartes, où c'est une parodie d'une game de Donjons et Dragons. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Munchkin? Vous avez chacun un personnage et on va vous passer un certain nombre de cartes au début de la partie. Dans vos cartes, vous pouvez avoir des objets magiques, une classe et une race. Et normalement, on peut avoir une classe, une race, un nombre d'objets magiques limité, donc pas deux chapeaux, pas deux capes. Si vous avez des armes avec des à main, c'est une arme par main. Mais... ça, c'est les règles. Et les règles dans ce jeu-là, c'est pas mal une suggestion.
C'est écrit tel quel dans les règles. Pour être un bon munchkin, il faut faire ce qu'il faut faire. Puis, si ce qu'il faut faire, ça dépasse un petit peu du cadre légal, tant que personne s'en rend compte, c'est encore légal.
Effectivement. Et dans le fond, l'idée, c'est... vous commencez un personnage niveau 1, c'est d'être le premier à arriver niveau 10. Comment est-ce qu'on arrive niveau 10? Oh, la porte vient d'ouvrir! C'est Hugo, on dit bonjour à Hugo! Hey!
Hey!
Installe-toi, on va terminer, Munchkin. Je disais, il faut arriver au niveau 10. Comment on monte un niveau? Ben, il y a quelques façons. La première, c'est de briber le maître de jeu. Hein? Et il y a des cartes littéralement pour ça. Genre, amener de la bouffe au maître de jeu, plus un niveau.
Bien connu pour fonctionner dans toutes les campagnes.
Oui. Une autre façon de monter niveau, c'est de vendre des objets magiques. Donc, tous les objets magiques que vous allez trouver dans le jeu ont un prix en pièces d'or. Et si vous vendez pour 1000 pièces d'or d'objets magiques, ben magiquement, vous montez niveau. Et la troisième façon, et la seule façon de gagner le jeu, c'est de tuer des monstres. Alors, comment on tue des monstres? Ben, ça va avec comment le jeu fonctionne. Quand c'est votre tour, vous ouvrez une porte. Et derrière la porte, il peut y avoir plein de choses. Vous pouvez recevoir un ennemi dans la figure où vous allez devoir vous battre, ou vous pouvez trouver un objet magique, ou recevoir une malédiction, ou un truc comme ça. Si vous n'avez pas eu à vous battre et vous avez passé l'espèce d'épreuve de l'ouverture de la porte, vous avez deux choix. Vous pouvez soit looter le trésor qui est en arrière de la porte, ou chercher le trône. Si vous lootez le trésor, essentiellement, vous allez dans le deck trésor, vous prenez une carte, et voilà, votre tour est terminé. Si vous cherchez le trône, vous devez avoir pigé un monstre, l'avoir dans votre main, vous le mettez en jeu, et là, je dis, je vais me battre contre tel monstre. Et c'est là que vos adversaires vont décider de vous nuire. Il y a des gens qui vont mettre des curses sur vous pour vous perdre des objets. Il y a des adversaires qui vont booster votre monstre. Puis, généralement, ben là, vous êtes dans le chenoute, vous pouvez vous sauver ou vous pouvez vous battre. Si vous vous battez et vous n'êtes pas capable de battre le monstre, vous pouvez demander de l'aide. Généralement, ça se fait contre une partie de la récompense. Vous ne pouvez pas donner les XP du monstre à vos adversaires, mais un monstre peut donner 5 trésors. Fait qu'on pourrait dire, hey, tu viendrais-tu m'aider pour 3 trésors? Vous dites, ok. Moi aussi, je vais t'aider. Ah non, moi, je choisis lui. Ok, ben c'est le même. Ben, t'as voulu une potion de force de géant sur le monstre pour qu'il ne soit pas capable de vous battre. Fait que c'est un jeu excellent pour les gens qui sont petits. Vraiment, là.
Oui, c'est vraiment génial pour des amitiés.
Je t'ai mis du son, Hugo. Mm-hmm.
Mais oui, c'est vraiment... Si on veut se donner des petits coups dans le dos, ouais, c'est notre chance, là.
J'ai-tu déjà joué à ça contre toi?
Je pense pas, non.
Non, ça serait assez épique. Ça serait assez épique. Bref, c'est un jeu qu'on a. Il y a plusieurs versions aussi de Munchkin.
Qu'on a.
On a Munchkin Fu, qui est à thème japonais, où la particularité du jeu, c'est plus il y a de ninjas sur le jeu, moins les ninjas sont forts. Parce qu'on sait bien qu'un ninja, c'est super dangereux, mais 8 ninjas sur le gazon, c'est un combat de 5 minutes. On a Munchkin Toulou aussi au club.
Ouais.
Puis on a Munchkin Adventure. Bref, on a plein de Munchkin, si ça vous tente de rire, parce que c'est un jeu qui est très ludique. Vous n'hésitez pas. Pas toujours safe pour le travail, par exemple, là, mais très drôle comme jeu. Je vous le recommande. Bonjour, Hugo.
Allô, allô.
Es-tu prêt pour faire ta chronique du garage?
Absolument.
Let's go.
Toujours prêt.
Et oui, aujourd'hui, j'ai malgré tout une chronique du garage et j'ai l'intention de vous présenter les stratégies et les conseils pour les jeux Legacy. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un jeu Legacy? Puis, je vais aussi aborder un peu en même temps les jeux de campagne. Ce sont, en gros, des jeux dans lesquels, de partie en partie, vous allez continuer à jouer au même jeu, mais vous allez suivre une trame narrative, une histoire, et au travers des parties, les règles du jeu, le plateau lui-même...
Les personnages.
Les personnages vont changer. Donc, à force, vos choix vont altérer la fin de la campagne, la fin... du jeu Legacy, et vous allez devoir tenter d'en obtenir le meilleur possible.
Donc, mettons que 5 personnes commencent le même jeu Legacy à des endroits différents, 5 groupes. Mm-hmm. Ils vont commencer avec le même jeu, mais probablement qu'ils ne finiront pas avec le même jeu.
Exactement. Et y a aussi une certaine variabilité entre justement les jeux Legacy et les jeux de campagne. Le gros changement que j'ai réussi à trouver, que pas mal tout le monde s'entendait à dire, c'est que les jeux Legacy vont généralement altérer de manière permanente la manière dont vous jouez. Donc, si on parle, par exemple, ici de Risk Legacy ou
Clank
Acquisition Incorporated, à la fin de votre aventure, de votre série d'aventures, vous allez vous ramasser avec un plateau avec des règles tout à fait nouvelle, tout à fait unique, propre à votre aventure, à votre jeu Legacy.
Et la stratégie va évoluer aussi. Absolument. La stratégie à la partie numéro 1 sera peut-être plus viable rendue à la partie numéro 5.
C'est ça. Le changement, avec un jeu de campagne, tel que, par exemple, Arnak, Lost Adventures ou Arkham Horror, Living Card Game, à la fin de la campagne, votre jeu n'aura pas changé de manière physique. Vous allez pouvoir recommencer une campagne. Il y a un concept de rejouabilité qui est plus présent, mais qui va en retour pas altérer non plus la manière dont vous allez jouer les parties subséquentes parce qu'ils ne vont pas être directement reliés.
Mais il y a des jeux Legacy qui ont des kits de recommençage qui existent.
Oui, ça aussi, c'est possible.
Ça va jouer avec la ligne.
Ça, c'est effectivement. Il y a des choses qui jouent avec la ligne. Le principe reste malgré tout que vous allez faire plusieurs parties dans le même système. Donc, mon premier conseil pour vous, si vous souhaitez vous embarquer dans ce genre de jeu, c'est de trouver un groupe de personnes avec qui vous pensez être capable de faire plusieurs parties parce que ça reste malgré tout un commitment. Les jeux de campagne les plus courtes tournent aux alentours de 6 parties, mais ça peut aller dans des jeux Legacy de plus de 50 parties aisément. Là.
Frosthaven, Gloomhaven, entre autres. Mais c'est tellement délicieux.
Mm-hmm. Ça se rapproche à ce thème-là un peu des campagnes de Donjons et Dragons ou de jeux de rôle. Certains vont faire la comparaison avec ça. C'est pas exactement de la même manière parce que le jeu structure, pas besoin de maître de donjon ou de quoi que ce soit. Mais il faut quand même être prêt.
Le commitment est similaire.
Le commitment est similaire. Donc, si jamais vous êtes intéressé à partir une partie de mode campagne ou Legacy, ce que je personnellement encourage beaucoup, là, je trouve que c'est un très beau système et que les règles sont généralement très bien faites. Allez voir un jeu qui vous intéresse. Si vous aimez jouer à Risk, il y a une version Risk Legacy. Si vous aimez jouer à Clank, allez jouer à la version Legacy de Clank.
Si vous aimez vous faire botter le cul, jouer à Pandemic Legacy, saison 2.
0, 1, 2, il y en a plein.
Ouais, mais la 2 est... Quand tu dis que on n'est pas nécessairement des personnes qui se découragent facilement, mais qu'on s'est tellement fait rincer par le jeu qu'on a comme perdu le goût de jouer.
Deuxièmement, et ce particulièrement, si c'est un jeu auquel vous avez déjà joué et que vous aimez bien, il est très important de retourner lire les règles.
Certaines ont peut-être changé.
Parce que la grande majorité du temps, afin d'accommoder la version Legacy, les jeux vont modifier quelques règles. Vont, en général, au départ, simplifier les règles et qui vont grandement se complexifier au fil des parties.
Bref, assumez pas que parce que vous avez joué au jeu normal, vous comprenez le jeu Legacy.
Exactement.
Puis on parle de jeu Legacy, de lire les règles. Il faut acheter une boîte différente, on est d'accord. On peut pas partir un Legacy sur un jeu de base.
Évidemment, vous pouvez toujours créer votre propre jeu Legacy de toute pièce. Ce n'est pas ce qui est recommandé nécessairement. Vous risquez de rencontrer plusieurs difficultés. Effectivement, dans la grande majorité des jeux, il y aura une version Legacy qui va être mise de côté. Pour des jeux de campagne, par exemple, c'est parfois une expansion que vous pouvez jouer à partir du jeu de base.
On va prendre un bon exemple de jeu de campagne que moi, Hugo, on connaît bien, c'est ISS Vanguard.
Mm-hmm.
Environ, on est quoi, 25-26 parties?
Ah oui, facilement.
Mais tu sais, ça dépend, il y en a qui finissent 118. Nous, on a décidé de gratter le jeu, d'aller faire tous les raccoins, etc., etc. Mais une fois qu'on a fini, on a fini. Là, puis on sait qu'on achève. Mm-hmm. Il y a des boîtes de plus qu'on peut acheter pour augmenter la grosseur de la campagne aussi.
Pour revenir à ça, donc justement, relire les règles et s'assurer de bien les comprendre parce que si jamais vous ramassez à votre sixième partie et que vous réalisez que vous n'aviez pas respecté une règle vitale dès la première, tentez de devoir backtracker pour vous rappeler de ce que vous avez fait dans les cinq précédentes parties et comment ça aurait changé vos résultats rendus à maintenant peut être très déplaisant. Et si jamais vous décidez de dire « Ah, ben j'ignore, je commence à respecter la règle tout de suite », ça peut changer complètement la balance du jeu. Donc, c'est des choses à porter attention. À présent, la grande section « Comment mieux jouer à des jeux Legacy en général ?» Il y en a tellement de manières différentes que c'est dur de donner une stratégie propre à tout, mais la grande lignée serait de pousser votre chance quand vous le pouvez et de couper vos pertes quand vous le devez. Ce que ça signifie, c'est que dans la tous les jeux de campagne et Legacy ont un concept de permanence, ce qui fait que vos choix dans les parties précédentes affectent vos pouvoirs, vos capacités, vos actions dans les parties subséquentes. Ce qui signifie que, en général, pour avoir de meilleures chances, avoir de meilleures capacités lors de la partie prochaine, vous devrez prendre de plus grands risques, affronter de plus grandes difficultés lors de votre partie actuelle.
Pour essayer de revenir de l'arrière.
Pour essayer de revenir de l'arrière. Si jamais ça va bien votre partie actuelle, que les dés, que les jetons, que peu importe la manière dont le hasard est implémenté dans votre jeu, vous allez bien, vous gagnez, ça va bien, ça roule, eh bien, poussez votre chance. Allez chercher ces trucs permanents-là parce que c'est ça qui va vous donner de l'aide dans toutes vos campagnes subséquentes.
Par exemple, on a une campagne, nous, de Betrayal at the House on the Hill Legacy. Et durant l'une des missions, je ne vous apprends rien en disant que dans ce jeu-là, il y a un joueur éventuellement qui devient un traître, habituellement. Mais dans une de ces missions-là, le traître avait été très bien géré. Mais au lieu de finir la mission principale, on avait une quête secondaire qui était sortie pour cette game-là spécifiquement. Et les joueurs se sont mis d'accord sur « il y en a un de nous autres qui va gosser le traître pour pas qu'il puisse nous attaquer ». Puis les autres vont s'occuper de faire la mission secondaire. Ce qui les a mis en danger, parce qu'éventuellement, la personne qui gérait le traître était plus capable de gérer le traître, mais ils ont réussi la mission secondaire.
Les amis, on va aller faire une petite pause. Il faut payer les bills et on va terminer l'émission avec le Legacy. De retour en onde pour le dernier segment de l'émission de Ludo Radio. Votre rendez-vous hebdomadaire de discussion, jeux de rôle, jeux de société, culture geek. Et avant de partir à la pause, Hugo nous parlait de jeux de style Legacy.
Exactement. Donc, on mentionnait de bien choisir vos jeux et de bien lire les règles pour s'assurer de ne pas en louper quelques-unes. Et à présent, on parlait un peu de comment pousser notre chance et couper nos pertes. Parce que, comme on le mentionnait, tous les jeux vont tenter d'avoir une certaine notion de permanence, mais avec un prix attaché pour réussir à aller atteindre ces bonus permanents-là. Il faut aussi noter qu'il y a un coût à aller les chercher, mais que plus que vos parties vont avancer, souvent moins ça vaut la peine. Pour vous donner une certaine idée, par exemple, à Horror Arkham, vous obtenez ce qu'on appelle des points d'expérience qui vous permettent d'améliorer votre personnage d'une partie à l'autre. Naturellement, les points d'expérience que vous allez obtenir à la toute dernière partie ne servent plus à rien parce qu'il n'y a plus de partie par après. De la même manière, à l'avant-dernière partie, ceux que vous allez obtenir vont seulement vous aider pour la dernière. Donc, c'est naturellement au tout début de campagne que ça vaut le plus la peine de prendre des risques, d'aller chercher ces points d'expérience-là parce que ça va vous aider pour toute la campagne à venir. Donc, un petit conseil, en début de campagne, en début de jeu Legacy, si vous êtes en mesure d'aller faire le petit pas de plus, de prendre le petit risque qui vous permet d'obtenir des bonus permanents, ça vaut vraiment la peine.
Hey, merci Hugo. Je pense que c'est le temps que tu te sauves parce que tu as un cours dans 10 minutes. Ben, on se revoit la semaine prochaine.
Eh oui, on se revoit la semaine prochaine.
C'est bon.
Et pour la semaine prochaine, on sera aussi présent pour...
Le Radioton. Le 9 novembre, on a une émission spéciale à 5h, 17h, qui va durer 1h30. On n'a pas décidé encore de quoi on va parler. Fait que...
Probablement plusieurs choses. Sur 1h30?
Oui, sur 1h30, ça va nous donner une chance de faire ça. Puis ben nous, ben c'est tout pour cette semaine. On a fait le tour. Un gros merci à Daphné de s'être joint à nous ce midi. Dans le fond, on vous revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde.
Bye bye.